C'est avec plaisir que le livre sur les quais vous propose cette interview croisée entre notre président d'honneur, qui nous a fait mais beaucoup, beaucoup d'honneur d'être ici aujourd'hui. Et je peux vous dire que depuis hier, il n'a pas chômé. Il est en tant que président d'honneur, on vous a mis à contribution. Dany Laferrière, vous êtes intellectuel, écrivain et scénariste. Vous êtes né à Port-au-Prince, vous avez été exilé au Canada, vous en avez pris la nationalité. Primé d'ici en 2009 pour votre roman « L'énigme du retour », vous siégez depuis 2013 à l'Académie française. Elle qui n'a pour autant pas empêché votre gouaille et votre effervescence de s'exprimer pour le grand bonheur de vos lectrices et de vos lecteurs. Vous êtes poète, votre esprit moqueur qui ne s'embarrasse pas de frontières fait fi des bien-pensants. Vous balayez les formules ronflantes, la pompe qui sclérose, lit-on de vous. Le livre est écrit par celui qui le lit. Nous nous réjouissons de ces interviews croisées avec Alain Maboncou, votre frère, avez-vous dit, et d'ajouter, on parle de nous comme des grandes gueules de la littérature francophone. Monsieur Alain Maboncou. Vous êtes poète, écrivain et professeur de littérature. Franco-congolais, vous êtes né à Pointe-Noire, en République du Congo. Alain Maboncou, nous vous accueillons avec honneur et grand plaisir. Vous avez remporté en 2006 le prix Renaudot pour votre mémoire de Porc-Épic. Vous avez été couronné pour l'ensemble de votre œuvre du Grand Prix de l'Académie française Henri Gall, ainsi que par la Principauté de Monaco. Sans jamais tomber dans le piège de l'affrontement basique entre civilisations, vous prévenez Alain Maboncou. L'autocritique est essentielle si l'on veut pouvoir poser un regard juste sur le monde et s'interroger par exemple sur la place de la communauté noire dans le Paris d'aujourd'hui. Vous chahutez au passage bien des clichés. Vos œuvres sont traduites dans d'une quinzaine de langues. Votre livre pour la rentrée, « Le monde est mon langage », c'est un tour du monde de la pensée et des émotions. Je vous propose 40 minutes d'interview croisée, puis nous pourrons permettre durant 20 minutes au public de vous poser des questions. Est-ce que ça vous va?
On est d'accord.
C'est parti.
C'est parti, voilà, tout à fait, ça va partir sur une émotion qui est une des formes d'affection rêvée, l'amitié, parce qu'on a le son, l'amitié, parce que c'est ainsi que nous voulons être définis de plus en plus, enfin de toujours, on parle du monde de la littérature, comme de tous les mondes, à la fois fermés et ouverts, en termes de, parfois, de cynisme, de pessimisme, de désespoir, eh bien, nous voulons changer un peu cet ordre des choses en nous déclarant publiquement et amis, c'est-à-dire amis publics au lieu d'ennemis publics. Le monde a assez de violence pour que les zones, enfin, où devraient fleurir la tendresse et se convertissent en zones de pessimisme. Donc c'est ainsi que j'ai rencontré, il y a quelques années, Alain Maboncou, qui nous raconte un peu cette rencontre.
Oui, effectivement, c'est que peut-être que si je suis aussi très confiant, très optimiste en littérature, parce que j'ai eu la chance de croiser des êtres qui m'ont permis de suivre un chemin, qui m'ont permis de balayer tout ce que l'âme humaine pouvait avoir comme cortège d'aigreur. Parce qu'entre Dany Laferrière et moi, l'un peut commencer la phrase, l'autre la termine toujours. Mais on ne sait pas qui va la commencer, qui va la terminer, mais en tout cas, nous avions cette sorte d'amitié du paralytique et de l'aveugle. L'un voit pour l'autre et l'autre marche pour l'un. Et c'est dans ce sens même que lorsque nous nous étions croisés pour la première fois dans les années 90 au Salon du Livre de Paris, je venais et je cherchais comment devenir un écrivain. Lui, il était un grand écrivain installé. Il avait écrit un de ses chefs-d'œuvre, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer. Pour ceux que ça intéresse, le livre est disponible là-bas. Et je ne vous dirai pas à quelle page il y a toutes les techniques du Kama Sutra intellectuel et littéraire. Donc, on s'était croisés à cette époque. J'étais un jeune poète, comme on disait en ces temps-là, qui cherchait à approcher les écrivains. Tous les écrivains étaient gonflés de pestilence et d'arrogance. Vous regardez de haut, vous êtes poète, c'est comme si vous avez élevé des cochons et que vous ne pouvez pas être à leur côté. Et il y avait cet homme qui était là. Je m'assois à côté, il regarde mes pauvres petits recueils de poèmes. Je lisais dans son regard cette sorte d'affection. Et c'était le seul qui avait la gentillesse. Je prends l'adresse et puis on commence à s'écrire. Je vois cette amitié qui montait au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il assistait à la gestation, voire même à l'accouchement de la plupart de mes livres.
On ne pouvait pas être autre chose et autrement qu'affectueux pour ce jeune homme. Il était assis là. Et les autres trônaient un peu. Et puis à un moment donné, je l'ai entendu dire, voyant passer les gens devant lui, sans s'arrêter, bien sûr, et un poète, on fait pas, hein, ça ne fait pas beaucoup de public, mais il disait tout bas, sans amertume, « Ce sont mes lecteurs, ils ne le savent pas encore. »
D'ailleurs, ça peut être le titre du livre de mes mémoires. « Ce sont mes lecteurs. » Ils ne le savent pas encore.
Oui, c'était vraiment adorablement dit. Et quand plus tard, quand des années plus tard, il aura le prix Renaudot et qu'ils sont venus, ils étaient nombreux, et il y a une dame qui a dit, écoutez monsieur, ça fait 1h30, 2h que j'attends pour me faire signer mon livre, vous ne pouvez pas intervenir un peu? Et lui de répondre, mais madame, ça fait 25 ans que vous attends. Donc voilà, donc, la modestie, la gentillesse et l'esprit aiguisé, et tout cela nous a... Mais il y a eu un coup de tonnerre. Il y a eu un coup de tonnerre avec ce roman et Corps et vers cassé, et qui a pris tout le monde par surprise. On n'attendait pas cette verve rabelaisienne, selon le mot de Pivot, et on n'attendait pas ce roulement, le mot est littéralement dit, parce que c'est une seule phrase et qui sans arrêt emporte tout sur son passage comme un fleuve, et on n'attendait pas cette langue et en même temps cette modernité, non seulement dans la forme mais dans l'esprit, et en même temps aussi tout le folklore de l'Afrique qui y passe. Et ce mouvement extrêmement contemporain a touché et les critiques et les lecteurs, et nous a valu dans le paysage de la littérature en langue française, et les traductions vont venir, et un nouvel écrivain sur la scène. Rien de plus heureux qu'un nouvel écrivain sur la scène. Quelqu'un, une nouvelle parole, quelque chose de neuf. Des années plus tard, une année ou deux plus tard, on était en Guadeloupe, c'était au moment de championnat de football ou quelque chose comme ça. Et puis là, il m'a montré un manuscrit, et c'était Mémoire de Porc Épic, et je l'ai lu tout de suite, et je lui ai dit, je ne sais pas si les gens vont aimer, mais les jurés vont aimer. Et c'est ainsi qu'il a eu le prix Renaudot. Et son nom était définitivement inscrit et dans le ciel des lettres françaises, de langue française.
Ben, il faut que je souligne aussi que je devrais dire que je dois à Dany Laferrière mon dernier livre, « Le monde et mon langage », puisque... Dans ce livre où je raconte beaucoup de rencontres que j'ai eues avec beaucoup d'écrivains, d'individus inconnus. Et l'idée m'était venue quand j'étais allé le voir à Montréal. Dany était là, tranquillement chez lui. Il venait de recevoir, je crois, le prix Médicis. Et puis j'étais étonné, il avait construit une piscine. Et tout était là, hein, donc on pouvait tout. Sauf qu'il manquait de détails, il n'y avait pas de l'eau dans la piscine. Ben, au bout d'un moment, je tourne en rond, je dis, mais Dany, ta piscine n'a pas d'eau. Il dit, mais c'est normal, c'est pour que ceux qui vont s'y baigner n'attrapent pas froid. Et il ajoute, et en plus, quand ils se baignent, on les entend quand il tombe dans la piscine. Donc aujourd'hui, si on va là-bas, on trouve cette piscine, il tient à ce que sa piscine n'ait pas d'eau. Et à partir de cet instant, il ne savait pas qu'il avait donné la piste sur comment écrire ce livre qui allait devenir Le Monde et mon langage, puisque je me suis dit, si je prenais quelques anecdotes comme celle-là de la vie des écrivains que je connais, donc La Ferrière, Le Clésio, Eduardo Manet, Édouard Glissant, mais aussi quelques inconnus, ou même mon styliste qui se trouve dans le 18e arrondissement, le styliste congolais, parce que j'aime trop faire travailler aussi l'entreprise congolaise, ce styliste qui fait des couleurs criardes. Et ce styliste, quand je vais chez lui, il est toujours en train de me demander « qu'est-ce que tu es en train d'écrire ?» Et comme j'étais en train d'écrire « Le monde et mon langage », il me dit, je dis « oui, le titre c'est « Le monde et mon langage ». » Il regarde, il dit « c'est un roman ?» J'ai dit « mais c'est un ensemble de récits et tout ». Il dit « je veux être dans ce livre parce que si je ne suis pas dedans, personne ne l'achètera ». Non seulement personne ne l'achètera, mais je vais dire à toute la communauté, n'achetez pas parce que Jocelyn le Bachelor n'est pas à l'intérieur. Donc c'est pour cela que cette dette, je la lui dois, c'est pour ça qu'il fait partie des premiers personnages de ce livre qui se trouve à l'intérieur. Non seulement en rappelant cette anecdote, je permets aussi à ceux qui n'ont jamais lu l'œuvre de Dany Laferrière, de découvrir les livres. Je regarde justement comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer, l'énigme du retour, pays sans chapeau, tout cet ensemble qui forme aujourd'hui peut-être l'œuvre de celui que je considère comme le meilleur d'entre nous. Mais combien de gens peuvent le dire sans humilité, on nous vend toujours du vent, mais moi j'ai la terre. Là où poussent les choses. Vous laissez la graine, elle pousse. Qu'est-ce qui a déjà poussé dans l'air ? Rien. Mais la terre est là, on la prend et on la fertilise.
En parlant de stylisme, parce que là où le point devient difficile entre nous quand même, et comme il est considéré, toute ma famille est complètement mobilisée sur cette question. Et comment faire pour rivaliser avec cet homme stylé, d'ailleurs, qui est protégé par Jocelyn le Bachelor. Et là, ma fille aînée m'a donné des chaussettes. Et d'ailleurs,
chaussettes roses, voilà.
J'ai des chaussettes partout. Et parce que Alain, disons, tout ce qui est visible, il domine ça. Moi, je suis allé dans la discrétion, mais c'est quand même dans une sorte de subversion du bas. C'est pas chaque jour qu'on voit un académicien en Converse et en chaussettes. Mais c'est intéressant cette histoire de mettre du style et dans la littérature. Je me souviens quand j'ai commencé à écrire. Vous savez, écrire, c'est pas recommandé. Vous asseyez tout le temps. Et toute littérature un peu qui tente de décrire un univers, c'est-à-dire vous voulez écrire de diverses manières, sous diverses formes, et vous finissez par rester assis longtemps, et ça vous donne ce qu'on appelle le petit ventre de la littérature, que Sainte-Beuve avait, on connaît ce petit ventre. Et alors, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas possible à la fois de faire rêver les jeunes filles, et quand elles vous voient, qu'elles ne désespère pas et de la nature humaine, de l'espèce. Et c'est là, par Alain Mabankou, j'ai compris qu'il ne suffit pas d'être intelligent, il faut être beau aussi. Non, mais les gens se contentent, c'est comme si la beauté, le style était comme ça, opposé au talent. Et j'ai l'air de dire cela comme si on en avait, mais était opposé au talent. Moi, je ne crois pas. On peut toujours essayer d'être... Et c'est Alain qui est à l'origine de cela, qui a introduit ça et dans la littérature de langue française. On l'a vu d'ailleurs quand il a fait toute sa série même au Collège de France. Et c'est rare qu'on voit quelqu'un au Collège de France où les gens venaient pour faire photographier celui qui parle et publier les photos pour montrer comment ce garçon est bien habillé. Et c'est ainsi, c'est la même chose que j'essaie de faire aussi à l'Académie française où l'on n'est pas connu pour nos converses. Donc pour moi, c'est quelque chose de neuf. Introduire comme ça des subversions parallèles, et des subversions un peu à côté des choses. Essayer de prendre le contre-pied de toute cette histoire. Et l'idée que l'individu qui produit de la beauté ne peut pas lui-même être, disons, touché par cette beauté. Et c'est cette façon de croire que un écrivain ne doit jamais parler d'argent, un écrivain ne doit jamais parler de la manière qu'il s'habille, un écrivain ne doit pas parler de tout ce qui est matériel. Mais je crois que c'est une mauvaise chose, c'est une forme de modestie qui est une hypocrisie morale, en fait. Et nous voulons tous être aimés.
Je pense même que j'ai vu cette sorte de coquetterie au Congo-Brazzaville où... il y avait un enterrement qui devait se passer, mais le problème, comme la personne qui venait de mourir appartenait à la SAP, la Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes, SAPE, donc c'était un sapeur. Le problème, c'est qu'il avait laissé dans ses dernières volontés qu'il voulait être enterré avec une chaussure Weston en crocodile. Mais il n'y en avait pas au Congo, à Brazzaville. Donc le temps qu'on commande ça à Weston en France, donc du côté de l'Opéra ou des Champs-Élysées, ça prenait le temps que l'avion vienne, que ça revienne. On a retardé l'enterrement de 3-4 jours en attendant l'arrivée de la chaussure Weston Crocodile. Et quand la chaussure est arrivée à l'aéroport, il y avait toute une délégation qui arrivait pour réceptionner la chaussure et enfin mettre, habiller le cadavre de sa chaussure Weston. En Occident, on va se dire, bon, c'est quoi ces petites croyances? Mais seulement, quand un cadavre, un mort a laissé une volonté et que vous ne la réalisez pas, vous avez beau soulever le cercueil, personne ne peut le soulever. Il devient très lourd. On met 14 personnes, le cercueil ne bouge pas. La voiture, même quand vous réussissez à mettre, tout d'un coup, le moteur de la voiture tombe en panne. Si vous réglez le moteur de la voiture, il tombe de l'orage. Il faut appeler les sorciers d'un village qui se trouve à 15 km pour venir arrêter la pluie, parce que chez nous, on arrête la pluie, à l'aide des balais et des imprécations. Donc, c'était arrivé à un sommet tel que ça relevait de la cocasserie. Mais moi, je pense que c'est menu plaisir, ce que l'autre appelle ses particules élémentaires, font partie justement de l'imaginaire même des Congolais. La vie étant courte, eh ben nous prenons au maximum les délices qui sont en face de nous. Moi, je suis toujours fasciné lorsque j'ouvre la gare de Michard et que je vois les Victor Hugo avec des nœuds très bien, les Alfred de Musset tirés à quatre épingles, le tout. Mais l'air même que nous avons de vouloir toujours penser qu'un écrivain doit se clochardiser même s'il gagne des millions, non, parce que ça y va de la santé intellectuelle aussi, de se sentir beau. Il ne s'agit pas d'avoir des choses chères, mais des choses qui vous mettent dans une situation où vous vous sentez indépendant de votre corps et libre de votre esprit. Or, beaucoup d'entre nous, nous restons dans l'esclavage de ces deux choses. Peut-être la libération aussi passe par cette indépendance, et du coup, cette indépendance se reflète dans ce qu'on écrit également. Donc, ce n'est pas parfois par choix, mais c'est par culture. Ma propre mère était pareille.
Voilà, tu as dit le mot fondamental dans l'œuvre de Alain Mabankou, c'est sa mère. Et il a écrit « Demain, j'aurai 20 ans », où il a évoqué cette femme. Il a écrit dans sa poésie d'ailleurs, dans ses poèmes, et aussi si vous ouvrez sa page d'Internet, et la première image que vous voyez quand il l'ouvre, et c'est l'image de cette femme jeune, qui a l'air maintenant de sa jeune sœur, et qui est fondamentale. Sa disparition n'est même pas un creux, c'est un trou béant, c'est une blessure inguérissable dans l'œuvre. Je crois même qu'au cœur même de son œuvre se trouve cette absence, l'absence de sa mère. Alors pour essayer de lui faire hommage, puisque il en fait beaucoup à tout le monde, et dans l'énigme du retour, j'avais introduit sa mère, Pauline Quinguet. Alors, c'est étrange parce que si j'avais parlé d'Alain, ça lui aurait fait plaisir à demi. Alors je lui ai donné le manuscrit du livre, L'énigme du retour, où je raconte l'histoire du retour en Haïti, après la mort de mon père à New York, où je retourne avec un cadavre, et pas le corps, mais l'idée du mort, et pour aller en parler à ma mère, et enterrer mon père en Haïti, pas le corps, l'idée du mort. Et Alain, je me souviens très bien, feuilletait le manuscrit devant moi, et à un moment donné, il s'arrête figé, et c'était écrit « Pauline Quinguet », et le titre du livre, il était très ému, parce que pour le toucher vraiment, il ne fallait pas parler de lui directement, mais de cette femme qui est au cœur de ses angoisses, comme de ses fêtes intimes. Et Pauline Quinguet, c'est fou. Et moi, c'est une femme aussi, mais ce n'est pas, et pas ma mère, c'est plutôt ma grand-mère. Et donc, je crois que ces gens que tu as repris d'ailleurs dans le dernier livre, et à Pointe-Noire, Les Lumières de Pointe-Noire, si jamais, c'est un livre extrêmement émouvant où il évoque le retour au pays natal et aussi la raison exacte, c'est qu'il n'a pas été aux funérailles de sa mère, il s'en est voulu toute sa vie et il entreprend presque à la manière où j'ai ramené en Haïti un cadavre sans corps, il entreprend d'aller faire des funérailles sans corps.
Et je pense même dans le livre en question de Dany, L'énigme du retour, puisque j'ai la chance de lire le manuscrit avant même que l'éditeur ne l'ait eu, c'est qu'en lisant, c'est vrai qu'on vous donne un manuscrit, ça fait commencer bizarre d'abord. Il me donne le manuscrit, mais il y a une partie des chapitres qu'il a caché. En fait, c'est le chapitre sur ma mère. Au bout d'un moment, je le lis quand même et je vois le nom de Pauline Quinguet. Pour moi, c'était comme un émerveillement. C'est la première fois que je voyais ma mère délogée de mes livres pour habiter dans un autre livre. Et donc, du coup, je me suis dit, mais c'est ma mère. Et donc, lui, il était presque étonné, en quelque sorte. J'ai lu ce livre, j'avais même l'impression que on l'avait écrit pour moi. Si bien que quand il est sorti à la rentrée littéraire, puisqu'il était écrit sous forme pratiquement de... C'est vraiment l'un des plus beaux livres de Dany Laferrière, L'énigme du retour. C'est écrit sous forme de poème. Donc quand les journalistes le reçoivent, quand ils ouvrent, ils se disent « Oh là là, c'est un livre de poème, ça ne marchera jamais, ceci, cela. » Mais moi, je l'avais lu à ce moment-là, la rentrée littéraire commence. Je regarde les pages le jeudi, le Figaro, personne n'en parle, Le Monde, personne n'en parle, ça commence à m'énerver. Je prends un mail, j'écris au Figaro, personne ne répond. J'arrive à voir le téléphone, je tombe sur Étienne de Montetti, donc le directeur de page littéraire, j'ai dit c'est scandaleux, quelqu'un a écrit le meilleur livre de la rentrée, vous êtes en train de vous faire des ascenseurs à gauche et à droite avec de la mièvrerie et tout. Après il me dit écoutez, puisque vous parlez comme ça, pourquoi vous n'écrivez pas un article vous-même? Je dis, ben, il n'y a pas de problème. Il dit, vous écrivez, mais on ne vous donne pas beaucoup de signes, vous aurez 3000 signes. J'ai dit, il n'y a pas de problème, même si vous me donnez 100 signes, je saurai ce qu'il faut dire du livre. Et il me donne les 3000 signes, je m'assois, j'écris le papier sur l'énigme du retour, et ça va là-bas. Résultat de course, ils avaient aimé comment j'avais parlé du livre, et l'article a fait l'ouverture du cahier des livres du Figaro. Mais ce n'était pas fini. Le temps des prix littéraires venant. Quand le livre a eu le prix Médicis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont republié l'article. Donc, puisque l'article, ils ne voulaient pas. Il y a quelques mois, nous vous avions dit que ce livre, donc, ça devenait l'histoire du Figaro qui avait découvert la Ferrière dès le départ, avant tout le monde. Donc, c'était terrible. Et bon, pour le reste, j'étais là aussi.
Partout, tout le temps, il écrivait, il appelait, il envoyait le livre qu'il achetait lui-même, au point que mon éditeur dit, écoutez, peut-être que ça c'est pas bon pour le livre, et qu'il en parle autant. Parce qu'il y a des jurés qui appelaient pour dire, écoutez, ma Bancourt fait un peu trop, je crois. Et donc, mais pourquoi, où est la subversion dans ce rapport? Dans ce rapport, la subversion, moi j'ai toujours dit, écoutez, je veux que mes amis m'aiment, je veux que mes amis disent que j'ai fait quelque chose de bien, et sans même voir ce que j'ai fait. Je n'ai aucune morale là-dessus. Et je le dis, mais pour le reste, mes ennemis s'en chargent. pour la critique dure, la critique douce, la critique gentille, mes ennemis s'en chargent. Mes amis, uniquement admiration. Alors, parce que ça fait mal quand on dit... C'est, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent être objectifs. L'amitié, il n'y a pas d'objectivité. Je suis de votre côté. Comment dire en Haïti, côté au campé. Qui côté au campé? Où es-tu? Où te mets-tu debout? Derrière moi ou contre moi? Alors, à ce moment-là, c'est quelque chose d'extrême, parce que c'est tellement facile... Et d'être objectif, quand quelqu'un ne veut rien faire pour toi, il prend le drapeau de l'objectivité. Écoutez, je ne peux pas faire, on va dire que c'est un truc de copinage. Moi, je n'ai pas beaucoup de copains, j'en ai qu'un seul, alors laissez-le moi. Donc, ce n'est pas un truc de corruption ni de groupe. C'est l'idée que nous sommes deux orphelins sur la scène, dans cette jungle du monde. Et cette idée-là, c'est tout être humain mérite d'avoir quelqu'un d'inconditionnel. Nous sommes quelqu'un qui pourrait prendre la main et traverser la forêt des monstres. La forêt, vous voyez, c'est pour ça que l'autre, là, le petit chaperon rouge, a eu des problèmes. Elle n'avait pas de copine pour traverser la forêt des monstres. Donc, il faut quelqu'un, et moi j'y crois, je crois dans des choses, dans des valeurs qu'on a fini par piétiner à force de mauvaises façons de regarder les choses. J'ai un ami, eh bien, moi, je le défends. Et si jamais il a fait quelque chose de mal, je dis que c'est moi. Bon. Et j'attends la même chose de lui. Donc, c'est ça, c'est intéressant parce que ça déstabilise tout le discours et qui demande et de faire autrement parce que, et qui finit par, disons, effacer toute trace d'humanité parce que les gens disent du mal de leurs amis, ils disent du mal de leurs ennemis. Quand est-ce qu'ils disent du bien? Et ils s'attendent à ce qu'on dise du bien d'eux. Donc il faut quand même qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous relie à la grande faiblesse humaine, que nous soyons touchés par quelque chose qui ne soit pas nous. Parce qu'en fait, c'est cela. C'est cela qui empêche cette forme d'amitié, c'est que nous sommes trop touchés par nous-mêmes. Nous sommes très faciles avec nous-mêmes et très durs avec tous les autres. Donc c'est pour moi extrêmement intéressant cette façon de déstabiliser le monde par la tendresse.
Et même cette... Allez-y. Cette déstabilisation par la tendresse est très intéressante. Et je pense même que lorsque je me faisais le VRP de ce livre qui m'avait chamboulé, L'énigme du retour, c'est que Dany Laferrière n'était même pas au courant. Tout ce que je faisais, j'appelais les membres du jury, j'appelais Patrick Grinville. Quoi, tu n'as pas reçu les livres? Écoute, je l'ai ici, je t'envoie un courrier. Non, je demande à Grasset. Non. Je te l'envoie pour être sûr que tu l'auras. Après, j'appelais. Oh, j'amenais. J'ai dit, mais qui a l'adresse de Bernard Pivot? Hein, un tel. J'envoyais. Il ne le savait pas, tout ça là. Parce que je pars toujours du principe que, eh ben, on reconnaît les amis, les vrais amis. Ben, ce sont ceux qui disent du bien de vous lorsque vous n'êtes pas là. C'est-à-dire que je n'avais pas à lui dire, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait... Il découvrait au fur et à mesure, quand il arrivait aux éditions Grasset, il dit, ben, on doit envoyer là-bas. On leur disait, non, on l'a reçu déjà de ma banque. Et au bout d'un moment, ben, j'étais content de voir qu'on avait reconnu le livre. Autrement, j'aurais été malheureux pendant longtemps. Vous savez, quand vous avez 500 livres qui sortent et que vous avez lu 1, 2, 3, 20, 30, que vous sentez que le livre qu'on est en train de porter là-bas, il est porté parce que tout simplement, il y a telle ou telle raison. Pendant ces temps, la vraie littérature, le vrai livre qui devrait toucher le monde est mis au frigo, comme on dit au Congo, voilà, on l'a mis au frigidaire, et parce que tout simplement, le monde de la littérature est devenu aussi un monde difficile. Quand on s'est dit amis publics, ce n'est pas par anecdote, puisque depuis quelques années, nous correspondons, on s'écrit toujours, nous pensons un jour publier cette correspondance, Laure Leroy, l'éditrice des Ulma qui est dans la salle là, le sait aussi. Je pense, nous pensons publier cette correspondance pour montrer aussi comment se bâtit la fraternité dans la littérature. Comment le monde de l'imaginaire est un monde plus grand que le monde fondé sur les relations sanguines ou l'hérédité. Lui, en m'appelant orphelin, qui le dit bien, je suis orphelin de père, de mère, mais par procuration, sa mère étant vivante, j'ai l'impression que sa mère, quand je lis, elle devient ma mère. Mon rêve, c'est d'ailleurs d'aller la voir. Mais je l'ai indirectement vue, parce qu'un jour, on se retrouve avec Daniela Ferrière en Haïti, et je ne sais pas, tard dans la nuit, on discutait à l'hôtel Caribé, il faisait très sombre, électricité coupée. Au bout d'un moment, il dit « Ah, j'ai un avocat dans ma chambre. » Et donc, il faut qu'on trouve du pain. On trouve du pain et on a mangé l'avocat dans l'obscurité. Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez me mettre ici du saumon, du caviar, du ceci, mais cet avocat-là, je n'ai jamais mangé un avocat pareil. Et donc, dans ces livres, se baladent comme ça les fruits. Et si vous voulez piéger, je dis ça pour ceux qui sont des responsables des salons littéraires, quand vous voulez inviter Daniela Ferrière, dites-lui qu'il y aura des avocats, il va courir.
Il faudrait bien quand même entrer dans l'œuvre. Et c'est une œuvre extrêmement carnavalesque. Et l'œuvre d'Alain Mabankou, elle est faite, j'allais dire, petit à petit, un peu comme son dernier roman, dont le titre rappelle, et cette façon d'avancer, Petit Piment. C'est une œuvre en construction, et qui, c'est étrange de voir apparaître, comme je l'ai dit, un nouvel écrivain, parce que je l'ai vu tâtonner, avant de trouver son style, avant ce style qu'il aura trouvé et de façon définitive dans Vers cassé. Et j'avais l'impression qu'il venait de plus loin que les autres. Et il avait une technique qui est essentielle aussi si l'on veut apprendre quelque chose de plus dans la vie, c'est de ne pas savoir les choses avant de les apprendre. Beaucoup de gens opinent avant de lire, beaucoup de gens ont des idées avant de réfléchir, beaucoup de gens ont des pensées avant de rêver, et nous vivons dans un monde où cela se multiplie. Je ne sais pas, on dirait que les gens, je me souviens d'ailleurs de mon enfance, quand j'étais avec ma grand-mère, et où il ne fallait pas parler. En Haïti, Timoun pas parler devant grand monde. C'est-à-dire qu'un enfant ne doit pas parler en face d'un adulte. Il doit se taire et apprendre. C'est scandaleux pour quelqu'un en Amérique du Nord, en Europe, et d'entendre que le silence peut être formateur. Il est très formateur, le silence. Quand j'étais avec ma grand-mère et qu'on parlait de moi, jamais à moi, et j'apprenais. Et c'est ainsi que, voyant les gens parler autour de moi, écoutant les gens raconter leurs histoires aussi, j'étais en face du grand théâtre du monde. Et j'avais compris qu'il fallait réfléchir, qu'il fallait penser, qu'il fallait observer avant d'avoir autorité de la parole. C'est quelque chose d'extrêmement important, ce temps d'initiation et qu'on a comme effacé dans l'histoire et dans l'éducation et dans d'autres sociétés. Ce temps d'initiation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vois de plus en plus les parents, ils sont fiers. Et quand les enfants pépient, quand ils parlent, ils répondent à tout, ils discutent de tout. Vous savez, cette aisance-là pourra coûter cher plus tard au niveau de la réflexion et de la pensée. L'habitude de laisser les enfants opiner sur tout, et j'ai déjà rencontré des gens, de tout jeunes gens qui apprennent la littérature, et je l'ai entendu dire, et Flaubert, c'est pas si bon que ça. Vous savez, Balzac, c'est un peu dépassé. Et ce genre de réflexion, si jamais ce jeune homme, cette jeune fille voudrait devenir écrivain, eh bien, ils vont payer ça très cher. Quand ils commenceront à écrire eux-mêmes et qu'ils verront la distance entre Balzac et eux, et qu'à force de dire des choses et comme ça, d'être sévère, sans avoir lu, eh bien, leur fonctionnement, leur façon de réfléchir, et faire en sorte qu'ils devront quand même l'appliquer à eux-mêmes. Et quand ton esprit critique est aigu, violent, intraitable et a des idées sur tout sans penser, et qu'ils doivent appliquer ça à eux-mêmes, c'est extrêmement dur. C'est rien ne sera bon, puisque précisément, ce sera toujours un petit peu au-dessous de Balzac, si possible, et pour eux, et ce serait dur. Le temps d'attente, c'est-à-dire, tout écrivain doit attendre à ce que son esprit critique arrive à la hauteur de son esprit créatif. C'est ça la grande lutte de l'écriture quand on commence à écrire. Et si on n'a pas, si l'on peut dire, la modestie, la patience d'attendre, de lire en attendant, jusqu'à ce que notre esprit critique arrive à la hauteur de notre esprit créatif, si on n'a pas aussi la force de faire taire la petite chose qui sans cesse opine dans notre tête, ce qui sans cesse opine, ce serait bien d'aérer l'esprit, de calmer notre esprit critique, de lui dire, mais taisez-vous. Des fois, on a envie de se dire à soi-même, mais dans la petite chose dans la tête, mais taisez-vous, arrête de commenter le monde à chaque seconde, arrête d'opiner sur tout. Et reste, vous ne pourrez jamais avoir l'autre angle d'observation. Et pour créer, il faut quand même avoir l'autre angle d'observation. Sinon, vous allez créer à partir de vous-même. Si vous êtes écrivain, tout ce que vous allez dire, chaque personnage va dire exactement ce que vous êtes. Si vous n'avez jamais entendu une autre voix, si vous n'avez jamais respecté une autre opinion, il n'y a rien de plus extraordinaire que d'entendre quelqu'un dire quelque chose que nous ne pensons pas et de la trouver belle.
Peut-être que je devais rajouter que ce qui continue à m'éblouir dans le parcours de Dany, c'est que c'est quelqu'un qui s'est fait de lui-même. C'est quelqu'un qui s'est fait. Et quand vous lisez l'œuvre de celui qui s'est fait lui-même, vous sentez cette générosité qui la traverse. Dany donne même l'impression que c'est très facile. C'est très presque ordinaire de pouvoir parler de la littérature, de pouvoir écrire. Mais le problème, justement, de l'écriture, c'est cela. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence, un premier romancier, il a tendance à vouloir tout dire dans le premier livre, il concentre tout, il pense qu'il faut compliquer. Mais quand il comprend que l'ascension, peut-être pour arriver au roman le plus souvent parfait, c'est dans la sobriété, là, il est étonné, il a dit, mais j'ai passé tout mon temps à compliquer les choses alors que c'est la sobriété que je cherchais. La phrase simple, sujet, verbe, complément, est souvent difficile. Les gens vont y rejeter les participes présents, le ceci, le cela, et ça devient presque diffus au point qu'on ne le comprenne pas. Quand dans les livres de Dany, qu'il vous parle de Borges, qu'il vous parle de Marquez, qu'il vous parle d'Octavio Paz, mais il en parle comme si c'était votre copain à vous, votre ami à vous. Ça devient presque quelqu'un qui va vous accompagner. Et c'est cette sobriété-là que je recherchais. Pas simplement cette forme de littérature où on vous avait donné des canons, vous passez par Balzac, si on vous interviewe à la radio, il faut dire que vous avez lu à la recherche du temps perdu, que vous êtes en train de relire Balzac pour la 4e fois, ça fait du bien pour montrer les trucs. Ben moi, j'ai pas honte de dire j'ai pas fini Balzac, il y a des Balzac qui m'ennuient, et que je peux vivre sans avoir lu à la recherche du temps perdu, et ça peut exister. Bon, je l'ai lu, hein, mais pas tout. Donc voilà, rassurez-vous. Hein. J'ai lu les parties nécessaires pour pouvoir au moins discuter lorsqu'on est en ville. Hein? En tout cas, jusqu'à l'endroit où on a la mare de café et puis on voit les madeleines de Proust, ça ira. Si on arrive là, c'est bon. Et donc moi, je préfère aller dans cette forme de sensibilité, de sobriété que je retrouve dans le livre de ma mère d'Albert Cohen, ou même dans dans L'étranger d'Albert Camus, des livres qui ont presque l'apparence d'être simples, minces, mais dont la densité garantit leur éternité. Parce que le propre, justement, des livres que nous écrivons, c'est dans l'esprit qu'ils puissent être intemporels, qu'ils traversent le temps, qu'ils ne soient pas des livres qu'on aurait écrit sur les rives de la Seine à Paris et qui, dès qu'on prend l'avion, les livres se désagrègent. Ça arrive, hein? Vous prenez l'avion, voilà, tout le monde en parlait à Paris. Dès que vous prenez l'avion, dès qu'on sort des frontières de la France, le livre ne peut plus se lire parce qu'il est incapable de voyager, parce qu'il n'a pas d'ailes. Les livres de la Ferrière portent en eux des ailes. Et même quand ces ailes se brûlent, d'autres poussent. Et c'est cette esthétique de la sobriété que je recherche au fur et à mesure. Cette esthétique qui fait qu'il suffit parfois d'un coup de crayon simple, léger, pour atteindre le message qui était au fond de nous. Et ce message, je le dois à Dany, évidemment.
Bon, merci. Mais enfin, merci. C'est vrai que j'ai toujours pensé qu'un écrivain, on est écrivain avant d'écrire, et pendant et après, c'est déjà trop tard. Et pour une raison simple, que le choix même du sujet, du thème, nos rapports avec les choses de la vie ordinaire, et, ou encore notre vision de choses compliquées, et ce sont des choses qui nous arrivent bien avant. Et quand on va commencer à écrire, si on choisit le mauvais tunnel, le tunnel de choses extrêmement complexes, le tunnel de choses complexes, disons, il y a des écrivains, de grands écrivains extrêmement complexes, mais dans mon cas, si on choisit le mauvais tunnel, on risque de s'essouffler très vite. Si on arc-boute nos rêves, notre imaginaire, à quelque chose qui nous est extrêmement proche, on peut y aller jusqu'à la fin des temps. Toute ma littérature s'arc-boute à une petite galerie dans une petite ville d'Haïti où l'on trouve une vieille dame au visage serein en train de lire, en train de boire du café. Cette seule petite image est tellement dense qu'elle m'a fait penser que la civilisation est en train de se jouer dans ce rapport simple où ma grand-mère, voyant passer des gens dans la rue et buvant elle-même du café, en offre à ceux qui passent. Et nous savons bien que quelqu'un qui a bu un bon café, celui de ma grand-mère, par exemple, qui détestait le café qui ne soit pas neuf, le café vieilli, le café refroidi. Elle ne faisait pas réchauffer du café. Elle faisait du café neuf. Alors, c'est ce sens de la perfection d'ailleurs. Et ce genre de café, quand on le boit, on a envie de se confier, on a envie de parler, on a envie de dire de quelque chose d'intime, quelque chose tiré de la vie quotidienne. C'est ce que je voyais moi, couché sur la galerie à ses pieds, observant les fourmis qui se baladent, qui se promènent à travers les briques. Et c'est ce que j'entendais, je voyais ce théâtre de la vie quotidienne dans sa nudité. Une dame assise calmement qui offre du café à des gens qui lui parlent. Et ainsi, de cette immobilité-là, elle est au courant de tout ce qui se passe dans la ville. Elle est au courant d'abord comme théâtre littéraire, comme théâtre tout simplement, selon les Grecs ou les classiques, en un temps, en un lieu. Le théâtre s'accomplit encore plus. Elle ne bouge pas. Et toutes les histoires de la vie quotidienne des humains se disent et s'entendent sur cette petite galerie pendant que moi, je n'avais pas droit à la parole. J'écoutais, je regardais cette narratrice, ma grand-mère, qui faisait circuler la parole, les émotions et les impressions. Avec cette cafetière qui pourrait être une sorte de truc de génie, vous vous souvenez, dans les mille et une nuits, le génie, la petite fumée qui sort de la cafetière et le café noir qui ressemble plutôt à l'encre, qui est le carburant de l'écrivain. J'avais, sur cette petite galerie où on n'avait jamais entendu le son du téléphone, le cinéma, le théâtre n'était pas entré, la radio n'était pas entrée, j'avais la voix nue humaine et les émotions les plus primitives. Et comment voulez-vous que je ne devienne pas écrivain dans ce cas-là?
Cher Dany Laferrière, cher Alain Mamoukou, on vous écouterait longtemps, longtemps, longtemps. Vous nous faites voyager, vous nous faites réfléchir, vous nous faites penser. Je me permets de m'adresser au public, je ne suis pas sûre que le micro fonctionne d'ailleurs.
Mais sinon, je vous prête le mien. Le mien, il est toujours, il marche toujours.
Où est-ce que vous allez avoir des questions? Nous avons un petit quart d'heure, 20 minutes. Si vous voulez poser des questions, je vous propose de lever la main de façon à ce qu'on puisse vous apporter un micro, soit à Dany Laferrière, soit à Alain Mabonkou.
S'il n'y a pas de questions, on va tous dans le bar. Hein?
Bonjour, c'est une question pour Dany Laferrière. Qu'est devenu Mongo?
Qu'est devenu Mongo? Ben, faudrait, les gens ne savent pas parce que ce livre n'est pas paru en Europe.
Il n'est paru qu'au Québec.
Ça veut dire, le titre du livre, c'est « Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo ».
Oui.
C'est très simple, en une minute, je vous le résume. Et c'est qu'on parle beaucoup des réfugiés et jamais à eux. Et si vous ouvrez la télévision, tout le monde est en train de réfléchir, de parler, de donner des conseils, de voir comment le monde se fera avec ou sans eux. Mais jamais on va leur parler eux-mêmes. Et on parle d'eux avec compassion, avec peut-être même des fois méchanceté, avec bonheur, avec tout ce que vous voulez. Je me suis dit, ce serait bien, peut-être bien et d'aller lui parler, étant moi-même quelqu'un qui a dû prendre l'exil et est arrivé il y a 40 ans au Québec, ce serait bien. D'où le titre « Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo ». Je m'adresse à un jeune homme de 23 ans qui venait d'arriver, qui est une sorte de portrait, puisque j'avais 23 ans en arrivant. Et j'essayais de lui dire comment va la société québécoise et aussi comment va toute société. Dès que vous arrivez dans un pays, je lui dis, il faut peut-être prendre des années pour réfléchir, pour regarder, pour observer avant d'opiner. Si vous voulez, avec les clichés, et ça va être très facile. Hein, et la facilité de mettre les gens, tout le monde dans le même paquet et de dire que la société est hypocrite. Ne croyez pas que quand vous dites que telle société est hypocrite, vous avez inventé et quelque chose de neuf. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a tous dit avant de rentrer dans la société et voir les mille nuances qui existent. Donc j'essayais de lui dire, par exemple, quand il prend l'autobus, de ne pas passer devant tout le monde et on ne lui dira rien, mais on saura qu'il l'a fait et que s'il veut devenir un citoyen, il doit aller à la fin comme tout le monde, c'est-à-dire et perdre son temps, c'est-à-dire subir les conditions difficiles de la société pour qu'on le respecte. Parce que s'il passe devant tout le monde en se disant « personne ne me connaît, on ne pourra pas me faire de reproches, d'autant plus que je suis pauvre encore, j'ai droit à la compassion », eh bien il vivra toujours dans cette situation où il demandera aux gens de le pardonner. Il faudra qu'il subisse aussi les entraves les choses désagréables de la vie quotidienne pour avoir droit au titre de citoyen.
Une autre question? Mesdames, Messieurs, une autre question?
Oui. Oui, bonjour Alain.
Bonjour.
Dany Laferrière, je vous ai tout à l'heure entendu du côté d'une espèce de définition de l'écrivain. Enfin, j'ai trouvé très intéressant ce développement, mais est-ce que l'écrivain, c'est pas d'abord celui qui apprend à se lire lui-même? À se lire lui-même. Et puis, Alain, bien évidemment, le plaisir de te revoir. Qu'est-ce qui est compliqué finalement et qui nous fait à un moment donné nous dire d'écrire, pas forcément pour nous, mais dans une espèce d'exposition, de monstration comme ça, qui vient en retour, puisque vous êtes académicien, ben Alain, tout le monde le connaît, voilà, d'un plaisir, d'une reconnaissance, d'une fêlure ou d'une fracture existentielle, peut-être, qui fait qu'on en arrive à finalement à y voir plus clair quand on commence à écrire. Voilà. Ah.
Très longue question.
C'est une question d'agrégation. Hein. Vous nous faites passer l'agrégation. Hein, c'est compliqué. Hein, voilà. Qu'est-ce qui fait que, en fait, ça se résume à qu'est-ce qui fait que nous écrivons? c'est ça. Oui. Ah, bon, tel que j'ai résumé la question, après, dans les réponses, comme nous sommes bavards, il y aura des circonvolutions qui arriveront jusque là-bas. Qu'est-ce qui fait qu'on écrit? C'est difficile pour, en tout cas, pour moi de dire qu'est-ce qui fait que j'écrive. Peut-être qu'il y a des concours de circonstances. Moi, je ne suis pas né dans une famille où il y avait des bibliothèques avec des pléiades, des encyclopédies ou quoi. Moi, j'ai vécu dans une maison en planches. Moi, j'ai vécu avec une mère qui était analphabète, qui n'est pas allée à l'école, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas écrire. Moi, j'ai vécu avec un père qui était réceptionniste dans un hôtel français à Pointe-Noire. Réceptionniste, en grosso modo, c'est celui qui est derrière l'accueil, qui donne les clés aux clients et qui leur dit « chambre 29 » et puis voilà, en partant, on donnait. Et mon père, quand il finissait, le soir, quand il revenait, les Occidentaux, en général les Français, qui allaient en été là-bas, ramenaient des livres de San Antonio, de Gérard Desvilliers, de ceci, de Guy Descartes. Ils lisaient en été, et puis en partant, ils laissaient les livres pour avoir les sacs libres dans lesquels ils mettaient des masques africains. Mais mon père prenait ses livres, les ramenait à la maison et me disait « Personne ne touche à ces livres, je vais les lire quand je serai à la retraite. » Sauf que j'ai jamais vu mon père lire un livre, hein, parce que voilà. Et ma mère ne comprenait pas, se plaignait tout le jour. « Ouais, il n'y a plus de place ici avec ces livres des Blancs, là, ils n'en veulent pas. » Parce que ma mère croyait que les Blancs ne voulaient même pas des livres qu'ils ont jetés et mon père a ramené à la maison. Et donc moi, je lisais. Pour devenir écrivain, il faut de toute façon lire. Et le fait aussi, peut-être que j'étais l'enfant unique, la solitude, tout cela, j'étais porté vers les destins, à lire les destins des écrivains, ça joue intérieurement. La vocation de l'écrivain, elle est là aussi, hein, ça se passe au moment où vous découvrez l'écriture et que vous comprenez que vous pouvez refuser le monde qui est en face de vous réel, gouverné par les adultes, et que vous voulez créer un monde imaginaire dans lequel vous serez le Dieu. En devenant écrivain, je me confessais à moi-même, je me disais, mon père a fait ceci, si j'étais papa comme lui, j'aurais fait cela. L'écrivain, c'est cela. On a un monde, on crée un monde qui est tellement autre, mais un jour, même dans les siècles à venir, la réalité va rattraper le monde de l'écrivain. Donc, on passe le temps à se demander pourquoi on écrit, et on meurt en tant qu'écrivain sans savoir pourquoi on écrivait. Mais au moins les pistes qui sont là sont celles qui pourraient dire que les écrivains, en général, un jour ou l'autre, sont devenus esclaves d'autres écrivains, d'autres littératures, d'autres textes, et ils ont senti battre le cœur dans une certaine transe qui a fait qu'ils ont commencé à écrire les premières lignes. Quand vous êtes adolescent, vous tombez amoureux d'une femme, vous voulez lui écrire, mais vous n'allez pas écrire une lettre administrative. Ça deviendra quelque chose de plus poétique. Moi, quand je voyais les filles que je ne pouvais pas dire, je prenais les poèmes de Victor Hugo, j'écrivais, voilà, ou de Chateaubriand, mon cœur à ta clarté sans flamme, je songe à ceux qui n'y sont plus, douce lumière, es-tu leur âme ? Et j'ai signé Alain Mabankou, alors que c'était Chateaubriand, voilà.
Oui.
Voilà, on passait pour cela, jusqu'à ce qu'une fille qui était revenue de France m'avait découvert. Il y a une forme de folie dans l'écriture, Dany.
J'aime beaucoup la question, et j'aime beaucoup la question, d'ailleurs, c'est toujours les deux questions les plus importantes de la littérature, et c'est pourquoi écrivez-vous, et qu'est-ce qui fait qu'on soit devenu écrivain ? Et c'est les deux énigmes, littéralement. Je me souviens que le journal Libération avait fait, il y a peut-être une trentaine d'années, avait posé la question aux tous les écrivains du monde entier, pourquoi écrivez-vous ? Il y avait des réponses quand même assez admirables, et Borges avait répondu, j'écris pour me surveiller. Et Marquès avait dit, j'écris pour que mes amis m'aiment. Et donc il y avait, je pense la plus brève, c'était celle de Beckett qui avait dit, bon qu'à ça, je ne suis bon qu'à ça. Mais les gens avaient compris qu'il disait qu'il était bon qu'à ça, qu'il était le président. Donc, cette question, pourquoi écrivez-vous, était venue et avait eu une première demande du temps des surréalistes. Et c'est arrivé comme ça, les surréalistes avaient l'habitude d'aller dans un café et ils se réunissaient tout le temps, ils causaient. Et il y avait un homme qui a l'air d'un comptable, je ne sais pas si les comptables ont un air de comptable, mais lui, il n'était pas comptable, il avait un air de comptable. Et il les regardait tout le temps, chaque fois qu'il venait, une fois par semaine ou deux, il les regardait et finalement, et je crois que c'est Philippe Soupeau, qui en avait eu marre, il est allé lui demander, mais pourquoi vous êtes toujours là à nous regarder ? Et il dit, mais je me demande toujours pourquoi vous écrivez. Alors Soupeau, qui est un homme modeste, a dit, ah non, pas moi, Breton, lui, il écrit beaucoup. Moi, j'écris à peine. Et donc, vous ne pouvez pas me poser cette question-là, comme si la question était une attaque. Et pourquoi vous écrivez ? Et les surréalistes avaient trouvé cette question quand même si directe, si vraie, si juste, qu'ils l'ont posée à tous les écrivains de leur époque. Donc, c'est une grande question. Mais je crois qu'on a écrit. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous est arrivé. On ne peut pas dire cela avant, ça ne vaut rien. C'est quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que vous allez devenir un écrivain ? Cette question n'est pas bonne. On n'en sait rien. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez écrit et la chose est déjà passée ? On ne peut plus remonter au commencement. C'est passé. On n'arrive pas. Finalement, on n'a jamais de réponse à cela. Et la seule chose qui compte, c'est peut-être qu'est-ce qui fait que vous soyez encore écrivain ? Parce que ça se joue sur la durée. Et là, même le talent ne suffit pas. Des gens qui ont commencé, qui ont eu grand talent, et on a rencontré, moi, le nombre de génies, le nombre de gens que j'ai rencontrés plus intéressants que moi, qui n'ont pas écrit le livre qu'on attendait d'eux. Et dans la vie, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, pas seulement écriture, le nombre de gens plus intéressants que nous, que nous rencontrons, et qui n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux, mais qui continuent à barboter dans le génie. Et on se dit, oui, mais ils n'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et il y a quelqu'un d'autre avec beaucoup moins de talent qui l'a fait, petit à petit, construit les choses. Et brusquement, à un moment donné, à force de mettre les briques, et un univers apparaît. La question, c'est plutôt, pensez-vous que vous avez un univers à offrir ? Parce que même le talent, je crois, de moins en moins, je crois quand même qu'il faut avoir, je ne parle pas de contenu, un univers, une observation. Et souvent l'univers vient d'une petite chose, comme l'on dit, le Nil, le plus long fleuve du monde, est un ruisseau à sa source. D'une toute petite chose qu'on étire, comme le Nil, et qui arrose toutes les terres et qui fait vivre des pays, une dizaine de pays que le Nil traverse et fait vivre. Donc c'est ça, avez-vous cette petite chose secrète et qui pourrait fournir et qui pourrait traverser 50 ans. C'est pas le nombre de livres, mais quand même quelque chose. Il y a des gens qui ont tellement une grande tension d'intensité quand nous lisons leurs livres, nous avons l'impression de lire aussi les livres qu'ils n'ont pas encore écrits. Et sur le prince Salinger, par exemple, avec l'attrape-cœur, il a écrit 3 ou 4 livres. Mais il y a une telle densité, et la densité est dans l'absence même. C'est comme si la densité des choses faites et disons, annonçait avec encore plus de force les choses qui vont être faites plus tard. L'absence est plus forte. Tu as l'impression que la personne se retient. Et le fait de ne pas avancer plus loin, cette pudeur-là, donne une force à la chose accomplie et finit par... On ne vit qu'avec ce sentiment que si il avait fait ça, mais on n'a que ça. Rimbaud. Un seul recueil ou deux, les illuminations et puis l'enfer, comment s'appelle ton truc ? Une saison en enfer, une ou deux saisons. Une seulement. Mais Rimbaud, la force de Rimbaud vient du fait que on dit toujours que mon Dieu, il est mort si jeune. Ça veut dire, on imagine tout ce qu'il aurait écrit s'il avait continué et on reporte ce désir-là sur la chose faite et on lui donne cette densité. C'est comme si on lui donnait tout ce qu'il n'avait pas écrit. Et moi, je crois que c'est ça, un univers.
Merci beaucoup, merci. Il nous reste à peu près 5-6 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions, madame?
Vous parliez, monsieur Laferrière, de déstabiliser le monde par la tendresse. Pour vous, quels sont, cette question s'adresse aussi à Alain Mabankou, quel est le personnage qui a un peu déstabilisé le monde par la tendresse, pour vous? Et pour vous
En littérature,
peu importe.
Dans la vie.
Oui, quel est le personnage qui, pour vous, a un peu déstabilisé le monde par la tendresse et que vous, voilà.
Évidemment, ma grand-mère, voilà. Je crois. Et sans bouger de sa petite galerie. Vous savez, ma grand-mère qui n'a jamais quitté sa petite galerie, d'ailleurs, il y a 3 choses qu'elle déteste. Elle déteste qu'on lui marche sur les pieds. Même par hasard, hein. Elle déteste si jamais elle sort pour faire une petite promenade, qu'on lui dise « Oh, da, quelle surprise !» Là, elle déteste, et elle déteste qu'on l'appelle grand-mère. Donc, alors, je vous dis ça pour si jamais vous la croisez au paradis, et faites pas cette erreur-là. Oui, moi, je crois qu'elle a déstabilisé le monde par la tendresse, puisque elle a mis en moi ce petit feu intérieur que j'ai continué. Et je crois qu'il y a des gens qui écrivent, qui n'ont jamais tenu la plume. Et d'ailleurs, on le dit, les 3 grands penseurs de la judéo-chrétienté n'ont jamais écrit. Et Pythagore n'a jamais écrit, Socrate n'a jamais écrit, et Jésus a écrit une fois, il l'a effacé. C'était sur le sable. Et il l'a effacé tout de suite, on n'a jamais su, beaucoup de gens ont dit. Donc ils n'ont jamais écrit. Donc ces gens qui n'ont jamais écrit, on voudrait bien savoir comment leur idée a pu un peu traverser le temps avec une telle force. Et moi, je suis un employé de cette tendresse que vous avez remarquée. Comment se fait-il que cette dame qui n'a jamais quitté Petit Gouave, il y a aujourd'hui un cybercafé à Montréal, que la bibliothèque d'Aounsic, du quartier d'Aounsic s'appelle le Café de Da. Donc, c'est sûrement pas moi qui ne suis qu'un humble gratte-papier. Ça doit être quelque chose de plus grand, cette tendresse, ce sentiment, cette énergie. Parce que c'est l'énergie. Je cherchais le mot. Et quand je disais, c'est pas toujours le talent, mais je cherchais un mot équivalent. Et ce n'est pas le travail non plus, c'est l'énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà senti cette énergie en vous. Vous entrez dans une salle, moi j'ai deux, et puis vous sentez que tout le monde veut s'agglutiner autour de vous. Je ne parle pas d'aura ou de trucs. Les gens sentent votre énergie. Et là, moi je suis obligé de fuir dans les toilettes pour conserver mon énergie. Je n'ai pas envie de la donner à tout le monde comme ça d'un coup. Donc cette énergie-là, elle est extrêmement puissante. Je crois que c'est elle qui a, et disons, qui m'a permis d'écrire ces livres pour qu'elle puisse dire cette subversion que vous appelez tendresse.
Bon, ben. vu que Dany a développé la grand-mère, mutatis mutandis, comme on dit, en changeant ce qui doit être changé, j'apposerai la mère, puisqu'il en avait parlé tout. J'étais toujours fasciné par cette tendresse généreuse, débordante, d'une analphabète qui s'acharnait pour que son enfant ait l'école. C'est-à-dire que quand j'ai dit l'acharnement d'une maman qui amène l'enfant à l'école, c'est pas comme ici, attendez, je t'amène en classe, et puis non. Elle arrivait, le maître était là à l'époque. On frappait, on fouettait, on dit. Hein, on fouettait encore les élèves par punition avec des câbles à vélo ou tout ce qu'il y avait. Elle arrivait, elle voulait bien s'assurer que si j'avais fait une bêtise, que j'allais être frappé, parce que c'était le sens de l'éducation qu'elle avait. Donc, il y a le fait que pendant longtemps, même si mon père était réceptionniste, c'était le seul lettré de la famille. Il avait quand même fait le certificat d'études primaires à cette époque-là. Donc, quand mon père arrivait, il ramenait quand même un journal. Ça pouvait être... il y avait Jour de France, Paris Match, et il s'asseyait sous le manguier, croisait les jambes et lisait le journal. Et moi, je regardais de loin, j'ai dit, mais c'est une belle position, il ne fait rien, il a ouvert un papier, il a le nez dedans, mais qu'est-ce qu'il voit dedans? Et donc, moi, je regardais mon père lire, et derrière nous, il y a ma mère qui me regardait mon père lire. Et ma mère était jalouse, parce qu'il s'est dit, si ça continue comme ça, ce mabankou-là, il va être fasciné par le père. Et donc, mon père va au travail, ma mère va au même manguier, s'assoit et prend le journal, elle croise les jambes. Et puis, moi, je comprenais qu'elle ne lisait pas parce qu'elle est dans le journal, mais elle cherche à voir si je suis dans les parages. Comme je ne fais pas attention, elle fait semblant de tousser. Je vois, elle lit, et puis j'arrive jusqu'au jour où je me suis rapproché, j'ai vu que son journal était à l'envers. Et là, j'ai su que ma mère ne lisait pas. Je dis, mais maman, ton livre, là, il est à l'envers. Il dit, non, j'ai fait semblant pour voir si tu le savais. Donc, c'est une histoire que j'ai également racontée dans un de mes livres, dans ce sens. Donc, c'est elle qui a fait que je devienne en réalité l'écrivain. Et le bonheur que j'ai eu, puisque un de mes livres, Vers cassé, est au programme dans au Bénin ou tout, quand je croise des élèves qui ont étudié les livres à l'école, ils disent « Oh, tu as réussi quand même à rendre ta mère la plus célèbre des mères de la littérature africaine. » J'ai dit « Mais je n'ai pas fini, je voudrais qu'elle soit mondiale. » Et donc c'est dans ces dessins-là que je suis en train d'aller. Voilà.